France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Je le rappelle, le premier autoportrait photographique date de 1840, quand Hippolyte Bayard s'est auto-photographié en tant que noyé, puisque le procédé qu'il avait mis en place avait été refusé par l'administration de l'époque, qui, elle, avait autorisé le daguerréotype. Donc, il y avait là une dimension politique, une première dimension politique de l'autoportrait, déjà dès 1840, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans d'autres domaines, dans d'autres moyens d'expression, et notamment chez les jeunes, notamment aussi avec tout ce que l'on a vu autour des gilets jaunes.
Allô?
Lisa.
Hello.
Lisa, please come and help us. Our life is in
fix. Don't cry. Try to stay calm. No, don't cry, don't cry. Try to stay calm. Okay, and give me your position, number by number.
Sir?
Hello?
Hello, sir?
Okay.
We
need help, we need help. People are dying.
Okay, no, don't worry. I contact my authority for you. Don't worry. Keep calm, okay?
How many people are dying? No, we have 10 dying. 10!
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Toc Toc. Vous avez d'abord entendu la voix de Marcel Fortini, le directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie, qui est notre invité ce soir. Et ce que vous avez entendu ensuite en anglais et en italien, c'est un extrait du teaser du film du photographe Francesco Zizzola, qui exposera au Centre Culturel Una Holt une exposition intitulée In the Same Boat, du 3 au 26 octobre, qui a été réalisée en septembre 2015 à bord du bateau de sauvetage Bourbon Argos, envoyé par Médecins Sans Frontières dans les eaux internationales pour secourir les migrants et les emmener dans les ports italiens en coordination avec les autorités gouvernementales. Bonsoir Marcel Fortini, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Alors on vous a entendu parler du portrait et de l'autoportrait, il en sera question dans cette exposition qui est déjà en place depuis le 11 septembre dernier, qui est visible jusqu'au 30 octobre à la Bibliothèque Universitaire Campus Grimaldi à Corte. Portrait méditerranéen, Ritra méditerranéenne. Et puis une autre exposition qui est déjà en place également, celle-ci est à l'Albor et Trecita avec Valérie Royer qui est votre complice depuis quelques années. C'est son idée, c'est la vôtre. Comment ça a démarré?
Le projet Trecita est un projet qui s'inscrit dans les programmations du contrat de ville, puisque c'est un appel à projet auquel on a répondu. Et le principe, c'est de travailler sur la mémoire des quartiers à partir du regard des habitants, mais aussi de différents artistes qui peuvent apporter leur regard sur la société et aussi sur les quartiers en rénovation, puisque les quartiers de trois cités sont en changement, en rénovation. Et le principe, c'était le suivant, d'organiser un atelier photo avec Valérie sur la base du volontariat et donc de trouver une personne qui avait envie de jouer le jeu pendant plusieurs mois sur le quartier. Valérie a formé cette jeune femme Santa Azara qui a fait un petit reportage sur le cheminement piéton et qui a photographié aussi les gens dans la rue.
Quand vous dites formée, cela signifie qu'elle avait envie de faire de la photographie, mais que ça n'était pas son métier, ni
exactement,
son hobby.
Ouais. Exactement. On a fait un appel sur le volontariat avec la Maison des Quartiers Sud, Marine Franquigne et tous les services avec Louis Panizzi et ses assistants. Et donc, on a eu un certain nombre de personnes et bien évidemment, on a choisi la personne qui pouvait le plus s'engager et qui était la plus motivée. Quoi, voilà.
Vous aviez déjà travaillé de cette manière en faisant comme ça un appel à des femmes.
Oui, c'est ça.
Elles avaient été nombreuses à répondre.
Oui, avec Jane-Evelyne Atwood il y a 2 ans maintenant, c'était le projet Femme Lab. Oui, ça avait super bien marché. C'est pour ça qu'on a un petit peu renouvelé le projet. Et puis, parallèlement à ce travail sur le cheminement piéton, on s'est dit avec Valérie, ça serait bien qu'il y ait des portraits à la chambre photographique en noir et blanc, argentique, à l'ancienne, un peu comme les photographes de rue. Et on s'est installé comme ça. Moi, j'étais son assistant, donc c'est elle qui a choisi le protocole. Et on s'est installé dans différents endroits des quartiers sud, notamment dans les trois cités. On a installé la chambre sur le trépied. Et il y a des personnes qu'on a contactées qui avaient déjà participé à des projets et qui habitaient la zone. Et puis d'autres qui passaient dans la rue, on leur proposait de réaliser leur portrait. Et voilà, ça s'est bien passé. C'est ce qu'on a au Centre culturel Albourg. Et j'ajoute que ces portraits de Valérie vont se retrouver dans un petit livre qui sera publié fin octobre avec un texte de Jérôme Camille que vous connaissez, que tout le monde connaît.
Avec lequel vous avez déjà travaillé.
On a déjà travaillé sur la Grande Barre il y a quelques années. Et là, il a recueilli la parole des habitants en leur donnant la parole justement pour la mémoire des quartiers. Donc il y aura ce texte en bilingue. Texte traduit en langue corse par Jean-Marie Arrigue et les photos de Valérie.
La Grande Barre, c'était cet immeuble mythique à Loupine qui a été détruit et vous aviez fait tout un travail avant la destruction de cette Grande Barre. Dans le petit enregistrement que j'ai utilisé pour l'indicatif de Toc Toc, on vous entend parler du portrait, de l'autoportrait. C'était lors d'une séance avec des étudiants, notamment sur le selfie. Et vous dites une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a marqué. Vous dites le portrait, l'autoportrait, il y a toujours une dimension éminemment politique. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces portraits ?
Mais ça dépend qui photographie, qui est en face et quel est le projet du photographe. Moi, je crois beaucoup au projet photographique. Forcément, lorsqu'il y a une vision photojournalistique, il y a aussi un engagement qui reste politique au sens noble du terme, pas au sens politicien, bien évidemment. Si c'est un plasticien qui intervient, il y a forcément un autre rapport. Donc, je pense que ce qui est important, c'est le photographe, l'opérateur qui est là et la distance qu'il va établir avec son sujet, l'intimité ou pas qu'il va établir, le rapport qu'il va établir, quoi, tout son dispositif, le support qu'il va utiliser. S'il travaille en argentique, en numérique, en polaroïde, s'il est en studio, en mise en scène ou en instantané. Donc, cette vision politique du portrait, elle dépend surtout de la méthode de travail et du projet artistique.
Idem pour le selfie, dont nous sommes inondés sur les réseaux sociaux, et surtout lorsqu'il y a de grands mouvements sociétals et sociaux. On pense aux gilets jaunes, puisque vous l'avez évoqué.
Oui, c'est vrai que les selfies, bon, c'est encore autre chose, hein, parce que le selfie est fait pour les réseaux sociaux, pour être diffusé sur les nouvelles technologies, sur Facebook, Internet. La durée d'un selfie est très éphémère, puisqu'un selfie en appelle un autre. Et puis c'est aussi une façon de se prouver à soi-même qu'on est là, à un endroit, à un moment précis, et de se rassurer aussi quelque part. Les Canadiens, je l'avais dit, l'appellent l'ego-portrait, donc ça laisse à méditer, quoi. Peut-être que Boris Cyrulnik, vous avez invité, aurait pu en parler de cet ego-portrait.
Absolument.
Par rapport à la résilience.
Lui qui dit que, certes, il a fait son travail de résilience, en revanche, il n'est toujours pas sorti de l'adolescence. Donc, il est tout à fait capable de faire des selfies également, comme la plupart d'entre nous. Michael Andréani nous accompagne tout au long de cette heure. Bonsoir, Michael.
Bonsoir, Marie. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
On s'est questionné, on s'est demandé tous les deux de quoi nous pourrions parler ce soir avec Marcel Fortine. Et puis, on s'est dit, lorsqu'on parle de photographie, on pense toujours, chacun d'entre nous, à une photo comme ça, emblématique, souvent qui a fait le tour du monde. Qui est derrière cette photo? Comment ça fonctionne? Vous vous êtes interrogé, Michael.
Oui, j'ai voulu évoquer avec vous donc quelques pages de l'histoire contemporaine de l'humanité à travers le prisme de ceux qui ont su capturer des instants finalement, très souvent douloureux, mais pas seulement, grâce à des photographies qui ont donc marqué des générations. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle qu'a réalisée Nick Hutt lors de la guerre du Vietnam en 72, où l'on voit des enfants pleurer, dont l'un est complètement dévêtu et venant de subir une attaque de napalm accidentelle dans un paysage de totale désolation. Ce cliché a permis tout de même de faire changer l'opinion des Américains sur cette guerre à l'époque, et ça avait suscité pas mal de vocations d'ailleurs auprès de futurs reporters et photoreporters, ça c'est à souligner. Un exemple de courage aussi avec la photo prise par Jeff Widener en 1989, on y voit un homme, souvenez-vous, face à une rangée de 4 tanks à Pékin, place Tiananmen, où la révolte du peuple face à un régime injuste fut écrasée par l'armée chinoise après 50 jours de manifestations, et ce cliché est encore aujourd'hui un symbole de lutte pacifique face à la violence. Quelque chose de de plus iconique peut-être aussi avec le guerriero heroico, le portrait extrêmement connu dans la culture pop du Che Guevara. Il a été réalisé en 60 par Alberto Korda, cliché qui est rapidement devenu un symbole de révolution et puis qui a été utilisé aussi à des fins plus marketing, dirons-nous. Quelque chose aussi de à la fois sportif et politique. 1968, le salut du Black Power par deux athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos, lors des JO de Mexico. Ce geste qui a été photographié par John Dominis leur coûtera d'ailleurs leur carrière sportive. On se souvient aussi de la jeune afghane, la jeune fille aux yeux verts. Ça a été photographié par Steve McCurry, 1984. On s'en souvient aussi, même pour ma part, en couverture de livres d'histoire géo. Je m'en souviens,
oui,
comme c'était
absolument.
Hier. Et aussi icône de National Geographic Channel, d'ailleurs. Mmh. On est aussi un peu plus proche de notre époque en 2014, la cérémonie des Oscars, alors là, moins historique, mais ça reste quand même à souligner. Un selfie où figure bon nombre de stars. Ça a été capturé par l'acteur Bradley Cooper. Il avait été posté par Ellen DeGeneres, grande présentatrice américaine, en 2014. Le selfie le plus retweeté de l'histoire, avec plus de 3 millions de retweets à la actif. Et puis, plus proche de nous géographiquement, on se souviendra aussi de ces photos, même capture d'écran vidéo en 1975 à l'occasion de la cave d'Allègre, l'occupation plutôt de la cave d'Allègre par Edmond Simion et les militants de l'Arc, des événements plus sportifs avec notamment l'épopée de Bastia 77-78 en Coupe d'Europe et ses joueurs, donc Rimaud et ses fameux gants rouges, si chers notamment à notre animateur Marc-André Agastellagne, et puis des manifestations emblématiques aussi avec des drapeaux levé, des scènes parfois très difficiles, mais en tout cas parfois des œuvres d'art, qu'il s'agisse des photos qui concernent le monde, peu importe, des témoignages, des documents historiques, et peu importe leur durée de vie, peu importe le support, c'est des images qui vous auront marqué et des souvenirs, je pense, qui ne mourront jamais.
Merci Michael Andréani. Toutes les photos que vous avez évoquées, c'est drôle, on les a en tête, mais alors avec une précision incroyable. Si vous pensez à une photo comme ça, emblématique, moi par exemple, je pense à celle d'Olivier Laban-Mattei, que vous connaissez bien, que vous avez fait venir, avec lequel vous avez travaillé, qui est originaire de notre île. Cette photo à Haïti, je vous en parle à chaque fois, parce que c'est une photo qui fait partie de ces photos emblématiques et qui a fait le tour du monde avec cet homme. Qui jette un corps. Hein. À quoi vous pensez, vous, Marcel Fortine ?
Comme image, là, maintenant ? Alors, moi, j'ai une image qui me hante depuis pas mal d'années. C'est une photographie de Werner Bischoff. C'est le petit enfant de Cusco sur la route de Cusco qui joue de sa flûte, là. Et je trouve que c'est une image fabuleuse parce que c'est tout l'avenir, toute la solitude et en même temps toute la liberté de voyager, de marcher et de partir à la découverte. Non, c'est une image qui me marque, voilà. C'est pas forcément une image d'actualité, mais c'est cette photographie-là parce que ce photographe, Werner Bischoff, qui m'a beaucoup marqué, qui me plaît beaucoup encore aujourd'hui, est un photographe qui a eu une vie assez courte, qui est décédé, je crois, dans un accident de voiture sur cette même route. Et voilà, c'est un clin d'œil comme ça que je fais, puisque vous m'en donnez l'occasion.
Le pouvoir de la photographie, le fait de saisir un instant pour l'éternité, ça fait appel à quoi ? Alors, vous n'êtes pas Boris Cyrulnik, mais est-ce que ça fait appel à notre mémoire ? Est-ce que ça fait appel à notre histoire, au témoignage de notre histoire, à quelque chose de plus intime ?
Je pense que lorsqu'on photographie, on est dans une situation particulière. On est à la fois dans le monde et hors du monde. Quand on est photojournaliste, je ne le suis pas, donc on est vraiment.
Mais vous en avez beaucoup côtoyé.
On est dans l'instant, dans l'actualité. On fait gaffe à soi, mais on fait gaffe aussi à l'autre. Donc on sait que ce que l'on fait quand on photographie dans ces terrains-là de guerre où il y a des catastrophes, on sait que pour avoir le témoignage, il faut être très près.
Mm-hmm. Donc on se met en danger.
Forcément. Et on peut mesurer, j'imagine, à un moment donné, l'impact du travail que l'on va restituer et que l'on va envoyer à son journal ou à son agence, qui ensuite, elle, va vendre l'image ou le reportage aux revues internationales. Mais est-ce que ça change des choses ? Est-ce que, oui, à un moment donné, ça fait prendre conscience, mais est-ce que pour autant, y a-t-il plus de guerre ? Il y en a encore. Elles sont pires que qu'hier encore. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la rue? Oui, il y en a toujours qui dorment dans la rue. Est-ce qu'il y a toujours des enfants et des femmes maltraités? Oui, il y en a. Pourtant, bon nombre de photographes et de cinéastes et de documentaristes ont fait des sujets là-dessus.
Oui, ça n'arrête pas la récurrence en des violences temps, meurtrières, mais en tout cas, ça témoigne.
En même temps, il faut le faire, il faut poursuivre, il faut insister, voilà. Mais peut-être qu'un jour, ça fera changer les choses. Il y a une image qui, à un moment donné, a fait prendre conscience les politiques, parce qu'on parlait de politique tout à l'heure, là, au sens politicien, c'est cette photographie du petit Elan en Grèce qui avait été découvert sur la plage il y a deux ans, je crois, qui à un moment donné a fait prendre conscience à nos gouvernants internationaux de la gravité de la chose. Mais vous voyez, pour autant, il y a toujours autant de personnes qui essaient de traverser la Méditerranée et qui disparaissent, qui meurent, et il y a autant de racisme qui monte avec l'intolérance. Donc voilà, c'est le travail de l'image, l'image fixe. Moi, je crois beaucoup à l'image fixe. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui justement marque les mémoires. Hein, puisque votre collègue Michael Ajaccio a bien décrit certaines images, hein, ça marque les mémoires. Mais après, il y a aussi le piège des réseaux sociaux et des selfies, pour rebondir sur ce que disait Michael, c'est le selfie des artistes à la cérémonie des Oscars. C'est une photo, c'est un coup monté, un coup de pub pour la marque de téléphone. Donc quand on sait ça, on se rend compte que c'est horrible, quoi. Tout le monde est manipulé jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Ah oui.
Donc il faut faire attention. Et c'est vrai que aujourd'hui, tous les canaux d'information, la toile, nous devons, les adultes ou ceux qui sont dans le métier, apprendre aussi aux plus jeunes à faire attention à ce qui est vrai, ce qui est faux, et même parfois aux adultes, voilà.
Comment ça fonctionne, le Centre méditerranéen de la photographie, lorsqu'on voit que là, vous avez trois expos, l'une à l'université, Portrait méditerranéen, l'autre à l'Albor, dont nous avons parlé avec Valérie Royer, Trecita, et puis celle qui va arriver le 3 octobre, In the Same Boat de Francesco Zizzola. Est-ce que vous gardez les images? Est-ce que vous avez un fond propre?
Alors, l'expo de Corté, il y a une partie qui est dans les collections du Centre méditerranéen de la photo. Le travail sur les Trecita, il y a pratiquement la totalité est dans les collections du Centre. Par contre, l'expo de Francesco Zizzola sur In the Same Boat, là...
Elle est à lui.
Voilà, on loue l'expo, on paye des droits.
Bien sûr.
Voilà.
Portrait méditerranéen, de quoi s'agit-il, ces différents photographes?
Alors, Portrait méditerranéen, justement, est parti un petit peu du constat qu'aujourd'hui, tout le monde se photographie, que le portrait, c'est important, on a besoin d'identité, de se voir. Et donc, j'ai proposé quatre regards différents, quatre méthodes différentes en argentique. Avec des dispositifs différents. Antoine, dont on connaît le dispositif avec ses mirror
sessions.
Antoine Giacomoni, pardon. Avec ses mirror sessions sur la scène artistique insulaire méditerranéenne. Jean-François Joly qui avait fait un travail de portrait à l'époque où il y avait eu l'écroulement, l'explosion de l'immeuble à la rue droite et il y avait eu cette montée d'intolérance entre les différentes communautés. On avait souhaité, par la photographie, un petit peu rassembler les gens et les mettre en scène et les présenter un petit peu. Et puis, il y a des images de notre collection avec Albano Silva Pereira qui travaille sur Bonifacio et Jens Rösch qui, lui, fait du portrait de rue. Et alors, les photos de Jens Rösch qui sont en couleur datent maintenant de 25 ans. Et l'autre jour, lorsque je faisais une visite guidée à la BU avec des étudiants, il y a une photo, il y a une cabine téléphonique. Donc, ce qui fait que la plupart des étudiants que j'avais, ils avaient à peine vu une cabine téléphonique, quoi. Parce qu'ils ont 20 ans, donc les cabines, elles ont disparu quand? Il y a les dernières qu'on avait sur Bastia, c'était il y a peut-être 15 ans.
Bah, plus, près, non, je sais pas.
15, 17 ans. Il en restait peut-être une en haut de la place Saint-Nicolas. Il me semble maintenant, il y a des boîtes à livres, des cabines à livres.
Donc, c'est le travail de mémoire, de témoignage de la mémoire dont nous parlions.
Avec les téléphones bleus, les pièces qu'on mettait, bref. Voilà.
Pourquoi vous l'avez voulu en argentique?
Pourquoi? Parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui, c'est bien de temps en temps de s'arrêter, de prendre le temps et d'être en contact avec un original, avec un vrai papier, un vrai négatif, quelque chose que l'on a en main, que l'on a sous les yeux, dont on peut se dire que si l'image s'abîme, on peut plus la refaire, qu'on a un négatif, mais on n'aura jamais le même positif. Voilà, c'est alors que aujourd'hui, le numérique c'est très pratique, très bien, mais une fois que le fichier est calibré, on aura la même sortie mille fois, quoi. un peu comme l'imprimerie, quoi.
Ritrati Mediterranei, c'est à l'Université de Corse, à la Bibliothèque Universitaire, au campus Grimaldi, c'est jusqu'au 30 octobre. Et vous y découvrirez, si vous n'y êtes pas encore allé, des portraits mis en scène, des portraits pris dans la rue. Et puis, il y a les
portraits documentaires.
Les portraits aussi. Documentaires. Donc, c'est jusqu'au 30 octobre. Et vous êtes notre invité, Marcel Fortini, jusqu'à 18h.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Sister shout,
oh yeah,
shout, sister shout,
uh-huh.
Tell the whole world what it's all about.
Now there's a reason for living, a reason for dying, a darn good reason why a woman starts crying, a reason for a mole, a reason for dimples, there ain't no reason why a man's so simple.
Shout, sister shout.
To be brilliant and a way to be a fool, a way to get to heaven, observe the golden rule, a way to get a sweetheart and a way to get a wife, and the day you quit me, baby, that's the way you lose your life.
Shout, uh-huh. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Oh, yeah.
Tell the whole world what it's all about.
Gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing. Ain't no reason that a band can't swing. I understand the birds and you understand the bees. Full of rhythm, you understand that.
Shout, oh, yes. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
You know I'm gonna shout.
Shout, sister.
I'm going to shout.
Shout, sister.
I'm going to shout. But it's all about.
Marcel Fortini est notre invité dans Toc Toc avec trois expositions du Centre Méditerranéen de la Photographie. L'une est à Corte à la Bibliothèque Universitaire. Très belle bibliothèque, je vous le dis, voilà, en passant. C'est jusqu'au 30 octobre, Portrait Méditerranée 1. Et puis, il y a au Centre Culturel L'Albor, une autre exposition toujours du Centre Méditerranéen de la Photographie et Trecita avec Valérie Rouillet et Santa Azara pour les auteurs des photos, et puis une exposition qui arrive à grands pas, ce sera le 3 octobre et jusqu'au 26 octobre au Centre Culturel Unaholt, où vous exposez au moins une fois par an.
C'est ça, oui, ouais. À peu près à l'automne.
Et là, vous leur proposez l'exposition de Francesco Zizzola, In the Same Boat, dont nous avons entendu un extrait du teaser dans l'indicatif de notre émission. Et je le disais, il s'est embarqué en 2015 à bord du bateau de sauvetage Bourbon-Argos. Moi, quand j'ai vu ces photos, bon, d'abord, j'ai été évidemment bouleversée par ces drames dont nous parlons tous les jours, et notamment sur les réseaux sociaux, le drame que traversent les migrants et qui ne change pas, qui n'évolue pas malgré la photographie, c'est ce que nous disions précédemment. Et par la beauté esthétique. Et je vous ai dit, hors antenne, Marcel, ben, on dirait de la publicité.
Oui.
Et vous m'avez répondu une chose très intéressante.
Oui, c'est la publicité qui va chercher dans le photojournalisme un petit peu ces codes-là pour brouiller un peu les cartes, en fait. Hein, puisque c'est vrai que lorsque on regarde des images de Francesco ou d'autres, on se dit, nom d'un chien, c'est une belle image. Mais qu'est-ce que c'est une belle image? Il faut pas s'arrêter à la surface, il faut essayer d'aller en profondeur. Donc, si on reste en surface, comme la pub, comme un consommateur qui reste sur la surface de la pub, il va avoir une belle image. Mmh. Mais si le consommateur...
Mais vous avez du respect pour certains photographes.
Bien
de
sûr,
publicité.
Complètement. Attention, là, ouais. C'est pas l'affect qui passe. Hein,
d'accord.
J'essaie d'analyser, quoi. Hein, je prends avec beaucoup beaucoup de distance. Hein. Maintenant, si dans la publicité, l'image de publicité, on regarde le message qui se cache derrière chaque image, c'est autre chose. Ça n'empêche pas d'avoir un regard sur l'esthétique et la composition de l'image, bien évidemment. Mais je crois qu'il est important de faire aussi la part des choses. Au même titre que la photographie, le photojournalisme, la photographie de guerre, il y a des images fortes, et puis parfois il y a des images qui sont un peu, j'allais dire un mot un peu méchant, un peu vulgaire, mais hypocrites, quoi. Voilà, qui sont pas vraiment des images qui vont, des images un peu trop flatteuses, voilà, qui vont être esthétisantes, voilà, merci, qui vont
gommer le sens.
Voilà, voilà, qui essayent de trouver un petit peu une esthétique charmante pour montrer l'image et mettre le photographe avant tout au premier plan et non pas les gens qu'il photographie.
Alors ici, l'esthétique, elle est différente, c'est mon sentiment. C'est de la photo extraordinaire, voilà, disons-le. C'est un monsieur qui a remporté plusieurs prix, c'est un grand photographe, Francesco Zizzola, mais c'est tellement beau et les sujets sont tellement forts et les cadres sont tellement incroyable que c'est d'autant plus glaçant. On est à l'inverse de la photo esthétisante, justement, alors que c'est absolument magnifique.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on met dans une belle image ? C'est quoi une belle image ? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que c'est une belle image ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est un beau film ? C'est quoi un beau film ? C'est tout et rien à la fois, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'on ressent face à une image, à une photographie ? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on sort d'une salle obscure ? Qu'est-ce que ça a bouleversé en nous? Est-ce que on va se contenter de dire bon ben voilà, cette image est forte, mais je reprends mon chemin et je continue mon quotidien comme si de rien n'était, et puis voilà, moi bon, ça m'a touché, mais bon, pas plus. Ou bien est-ce que j'en prends conscience et j'essaye un peu à ma petite façon de non pas de changer les choses, mais d'en parler, de concerner les uns et les autres, de pointer les dysfonctionnements de notre société et de m'engager à titre de ma personne. Je dis ma personne, on, hein, c'est en général. Pour essayer que les choses un petit peu bougent, évoluent. Voilà, je crois que ça, c'est important. Alors après, oui, il y a la belle photographie. Moi, dans le photojournalisme, je parle pas de belle photographie, je parle d'images fortes. Voilà. Des images qui, un travail fort. Où on sent que le photographe était présent, mais en même temps, il s'est mis. C'est pas lui qui le photographie. Il se met pas en autoportrait. Il donne la parole aux gens par l'image.
Alors là, c'est tout à fait particulier parce que non seulement il donne la parole aux gens par l'image, mais surtout il est collé aux gens. Et du coup, on a l'impression, nous, en tant que spectateurs, d'être à l'intérieur de son cadre. C'est très particulier. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, tiens, le photographe s'est collé. On a l'impression d'être au milieu de cette masse de gens en détresse. C'est assez particulier ce que ça évoque.
Oui, c'est très particulier. Francesco a installé... il avait tout un dispositif sur ce bateau... Il a travaillé en numérique essentiellement. Hein. Il avait tout un dispositif justement qui permettait
d'avoir... Mais avec un smartphone aussi.
Hein. Avec plusieurs smartphones. Ouais. Un dispositif qui justement a permis de donner cette sensation-là de proximité, quoi, de briser les distances, hein, de faire comme si... nous étions là témoins à 20 cm, 30 cm des personnes.
Ça.
Mais dans l'exposition, vous verrez, d'abord il y a très peu d'images fixes, vous verrez. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes puisque le sujet est suffisamment fort pour et grave pour qu'on puisse avoir des images plutôt symboliques. Et puis il y a, vous verrez, au premier étage, il y a une installation qui s'appelle The Yellow Line où il y aura justement ces images mouvements qui sont projetées en continu avec une ligne qui est infranchissable et qui symbolise là la distance intellectuelle, physique, politique que l'Occident a mis en face face à la venue de toutes ces personnes d'Afrique et de Proche-Orient, quoi.
Et dans
comme
cette...
s'il y avait une on voit mais on peut rien faire ou on veut rien faire, voilà.
Et dans cette exposition, il y aura également du son ou pas du tout, puisqu'il...
Oui, mais il y aura le son avec, normalement, hein, il y aura le son avec, avec le petit film multimédia, voilà.
Donc c'est à partir du 3 octobre et jusqu'au 26 octobre à ne manquer sous aucun prétexte, vraiment, parce que c'est une exposition très forte, pour reprendre le terme de Marcel Fortine, et j'ose le dire, très belle également. Bah, c'est comme ça. Donc allez-y, exposition de Francesco Zizzola. Alors je sais que vous aimez bien qu'on vous dise ça, alors je vous le dis, In the Same Boat, donc le titre de cette exposition, comprend la série qui a remporté le deuxième prix au World Press Photo en 2016. Donc voilà, c'est important de le signaler, c'est pas n'importe quelle exposition. Nous allons retrouver Laurent Hérin, notre monsieur cinéma. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Marie, bonsoir Marcel.
Bonsoir.
Alors Laurent, évidemment, on vous connaît pour le Festival de l'Âme.
Tout à fait.
Vous travaillez tout le long de l'année. Mais de temps en temps, vous venez nous voir, en général le mardi, la veille des sorties, au cinéma. Alors de quoi vous nous parlez ?
Avec grand plaisir. Ben déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que je viens d'entendre, parce que c'est vrai que c'est passionnant et je trouve qu'il y a sûrement un lien. Enfin, je vous entendais en parler, Marcel, par rapport à l'image, le film, la photographie. C'est des choses qu'on retrouve et sur la qualité, la beauté de l'image.
Ouais.
Et on pense bien sûr à ce métier de chef-op dont les gens ne connaissent pas toujours, parce qu'on appelle ça aussi directeur de la photographie. J'ai déjà entendu des enfants, quand on fait des interventions scolaires, qui nous disent « mais c'est celui qui prend des photos sur le plateau ».
Non, mais sauf quand on vous entend, Laurent Hérin ou encore Dominique Landron, oui, Xavier Yaffre, tous ces passionnés de cinéma
pour nous, c'est
qui
évident.
Sont dans les médias, c'est la première chose. Ah non, t'as vu son chef-op ? Ah non, c'est normal. Il a choisi le même chef-op que tu sais, le film. C'est primordial.
Complètement. C'est un poste très très important. Alors bien sûr le réalisateur, le scénariste, qui sont souvent parfois les mêmes en France, mais le chef opérateur, oui, est un poste très très important.
C'est la lumière,
c'est la lumière, cadre, c'est le cadre, c'est ça exactement. Ouais,
surtout le cadre,
surtout le cadre.
Ouais, ouais,
oh, ça va, c'est la lumière aussi, hein.
Ouais,
c'est
cadre.
Toute l'ambiance, la lumière, mon cher.
De Pardon dit que le plus douloureux en photographie et en cinéma, puisque De Pardon est aussi documentariste et cinéaste, c'est le cadre. Parce que c'est ce qu'on dit, voilà. Ça, je le mets dans le champ, et ça, je le mets pas, quoi.
Complètement.
Je raconte cette anecdote à chaque fois que je reçois Marcel Fortine. Il l'oublie, donc je peux la raconter à nouveau. Je faisais des études d'art plastique, et j'avais un UV photo. Et la nana, au milieu de l'année, me dit, écoutez, vous êtes irrécupérable. On ne peut pas vous expliquer le cadre. Vous n'y entendez rien. C'est fichu pour vous. On n'y arrivera jamais. Mais on peut l'apprendre, le cadre.
Bien sûr.
Mais alors, je suis tombée sur une...
Voilà. C'est vous qui le dites.
Sur une sale gosse. Bon, alors, les sorties.
Les sorties cette semaine, donc 18 sorties encore, donc 13 nouveautés, 5 reprises. On va rapidement parler de Bacurau, film brésilien qui a eu le prix du jury à Cannes en doublon avec Les Misérables de Ladj Ly, film sur lequel on reviendra cette année, bien sûr. Bacurau, ça se passe au Brésil. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été tourné depuis Bolsonaro. Et ça a effectivement une petite critique du monde de Bolsonaro. Le scénario, rapidement, dans un village, au moment d'un enterrement, les habitants se rendent compte qu'ils ont été effacés de la carte. Et ils se rendent compte surtout que le village est entouré. Donc on est entre du John Carpenter de Asso ou du Délivrance de John Borman. Passionnant.
Ah,
oui, excellent film.
Bon.
Oui, oui. On a aussi deux adaptations qui sortent cette semaine. Le Dindon, réalisé par Jalil Lespère, qu'on connaît aussi comme acteur, mais qui est passé à la réalisation depuis 2-3 ans, c'est ça. Une pièce de Fedot, oui, complètement. Et la deuxième adaptation, alors pour les passionnés de série, Downton Abbey.
Ah,
voilà,
ouais.
Qui a été adapté au cinéma et qui sort cette semaine.
Je dis ça, mais je l'ai jamais vu. Hein. Mais j'en ai entendu parler. Et vous, Michael ?
J'en ai entendu parler.
Ah, j'adore. Mais oui, on vit ensemble avec Michael. Alors, la suite,
une grosse sortie, Rambo, Last Blood.
Ça, c'est du lourd.
Ça, c'est du très, très lourd, on va pas se mentir. Donc, 5e épisode de la saga de John Rambo, notre vétéran du Vietnam.
Quoi ? C'est ma guerre.
C'était pas ma guerre. Effectivement, donc jeune réalisateur, Adrien Gunberg, qui prend la suite du fameux Ted Kotcheff, qui avait fait réaliser le premier épisode.
Un flop ou pas ?
Oui, aux États-Unis. Alors, un flop, c'est un grand mot, mais il se place en 3e position, derrière justement Downton Abbey.
Ah, d'accord. Bande-annonce.
Parce que je suis revenu à la maison il y a longtemps. J'étais un homme perdu. Et j'ai rencontré Gabriel.
Oncle John !
J'avais une famille et je le savais même pas.
Je dois aller jusqu'au Mexique. J'ai retrouvé mon père.
C'est pas un type bien.
Porque nunca se ha portado como tu padre. C'est lui qui se comporte comme ton père. Il est allé au Mexique et elle est pas revenue.
Qui sont-ils ?
Mais qui sont-ils ?
Eh oui, voilà, après avoir fait la guerre.
Tu brûles au fond de moi,
aux États-Unis, après avoir refait la guerre au Vietnam, parce qu'il faut quand même pas oublier que Rambo 2, il est retourné au Vietnam pour finir la guerre qu'ils avaient jamais finie. Ensuite, il l'a fait en Afghanistan, enfin un peu partout. Le v'là qui s'attaque au cartel.
Stallone.
Oui, et s'attaque au cartel mexicain de la drogue. Alors attention à eux.
Bon, les critiques sont pas terribles.
Les critiques sont pas fabuleuses et même l'auteur du premier livre, du livre qui a inspiré le premier Rambo, a dit que le film n'était pas extraordinaire et qu'il voulait pas avoir son nom associé. C'est pas possible.
Oh, dommage.
J'irai le voir quand même.
Alors moi je vous rappelle quand même que le Rambo, le premier volet, est absolument exceptionnel. Enfin moi j'en ai un souvenir ému et vous nous faites un petit cadeau.
Oui, on a décidé de le passer avec le cinéma Le Régent et c'est présenté ce soir par Sébastien Bonifay à 19h au Régent, donc en VO, version originale.
À la sortie de l'émission, on peut y aller, Marcel.
Complètement.
Autre film.
Autre film cette semaine, alors je les ai mis un peu ensemble parce que c'est deux films qui se font écho, Ceux qui travaillent. C'est un premier film d'Antoine Rusbach, un premier film totalement ambitieux et parfaitement maîtrisé surtout, qui nous parle en fait d'un homme de 50 ans qui a passé sa vie à consacrer sa vie au travail. Il en a oublié sa famille et il s'occupe de fret maritime. Or, dans cette société, il lui arrive un incident. À distance, tout se passe par téléphone, puisqu'il appelle les commandants des bateaux. Et suite à cet incident, il est licencié. Donc son monde s'écroule. Pour un premier film, c'est absolument fabuleux. Je le conseille fortement, fortement cette semaine. Mmh. Et un autre film où on est...
Ça a l'air barbant, mais dans votre voix, ça prend quand même une autre dimension.
Alors, pour ceux qui seraient encore rebutés et qui trouveraient barbant, il faut signaler que c'est Olivier Gourmet qui tient le rôle principal et qui ne lâche pas l'écran. Il est à l'écran sur tous les plans. Totalement extraordinaire, oui, à voir vraiment cette semaine. Et un autre film qui est un peu dans le même esprit.
Redites-nous le titre.
Ceux qui travaillent.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il ne fallait pas travailler justement sur le titre? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Peut-être. Alors en fait, le réalisateur expliquait qu'il voulait faire une trilogie. Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient.
Ça fonctionne mieux.
Ça donne un peu plus envie peut-être. Ouais. Et dans le même esprit, mais là sur le monde paysan cette fois-ci, Édouard Bergeon qui nous fait lui aussi un premier film, Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, dans un rôle totalement bouleversant, puisque Guillaume Canet dans ce film interprète le papa d'Édouard Bergeon. C'est donc une histoire vraie. Et ce jeune réalisateur qui avait déjà fait un documentaire sur son père, ou du moins sur le monde paysan, raconte ici l'histoire de sa famille, sa mère, lui-même, sa sœur et son père.
Bande annonce ?
Complètement.
Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein.
Arrêtez dans la merde.
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système...
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi, au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qu'il se démerde.
S'en sortir, y'a qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois.
C'est fini, les grands bois. Si tu passais.
Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu.
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. C'est
magnifique.
La suite de la chanson. Magnifique, au nom de la terre.
Au nom de la terre, bouleversant. Il a été présenté cet été à l'âme. C'était une grosse séance. Le réalisateur était là. Et on sent vraiment que forcément le sujet le touche puisque c'est son histoire à lui.
Mmh. Vous parlez de la musique, Marcel Fortine.
Oui.
Protagoniste d'un film, l'une des personnes les plus importantes dans le film, c'est la musique.
Oui, ça compte beaucoup pour tout le monde. Hein, mais tout à l'heure, en écoutant l'extrait, là, je trouvais qu'il y avait les dialogues et cette musique qui était pas en arrière-plan, qui était sur la même voix que... Sur le même son que les voix, en fait, tu vois.
Et qui nous indique l'ambiance.
Ouais. Et puis, ça prépare aussi à la scène suivante. Et là, de ne pas voir des images, on imagine, ce qui peut bien se passer, quoi.
L'atmosphère du film.
Toute l'atmosphère, toute l'ambiance, les lumières aussi. Enfin bon, après, ça laisse la liberté à chacun d'imaginer quelque chose, quoi.
Musique ou pas dans les scénographies d'une exposition photo? Ça dépend?
Ça dépend de l'intention de l'auteur, ça dépend.
Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas, oui. Après, pourquoi on mettait de musique, pas telle autre? Donc, il faut que ce soit le projet qui nécessite la musique. Si c'est une musique qui est collée comme ça sur l'image, ça n'a aucun intérêt. Comme de faire une expo et d'accrocher des images à un mur pour faire de la déco. Voilà, c'est pareil, quoi.
Autre chose?
Non, on a fait
mais
tout,
si,
Marie.
Il y a autre chose.
Si, dimanche à 11h, au Régent. Faut pas l'oublier, Anne de Jaffery qui présente donc son nouveau film. Et en présence de toute l'équipe, elle sera là bien sûr pour le présenter, les actrices aussi, dont
Romane Bourringer. C'est un court-métrage et c'est à 11h. Et ça se passe au Régent en avant-première. Et nous, on suit beaucoup le travail d'Anne de Jaffer et qu'on salue.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci, Marie.
Merci. Lorsque vous parliez d'accrocher des photos au mur pour faire de la décoration, eh bien non, ça n'est pas ça. C'est très compliqué, une exposition, surtout lorsqu'on a une exposition de portraits avec des photographes différents. C'est un casse-tête pour donner du sens.
Oui.
Accorté, comment vous avez procédé ?
Alors, ça dépend des lieux aussi. Hein. Ouais. Il y a des lieux qui sont plus difficiles que d'autres, comme il y a des expositions plus difficiles. Là, on a choisi, par rapport au lieu, d'adapter aussi le travail et d'organiser, par exemple, le travail d'Antoine sur les quatre îles. Et il y a une longue galerie qui permet de mettre en vis-à-vis tous ces visages. Voilà. Après, il y a des retours comme ça, qui, en couleur, avec les photos de Jens Rösch, qui viennent un peu tempérer et reposer le regard. Et puis la salle du fond, il y a tout un mur de portraits de Jean-François Joly sur la rue droite, qui sont des portraits assez graves, assez durs, mais en même temps assez intenses. Voilà. Ouais. C'est pas simple, mais en même temps c'est pas compliqué quand on connaît bien le travail. En fait, il faut connaître le travail des gens, quoi, voilà. Et il faut avoir eu un petit peu leur état d'esprit, leurs conseils. Il faut connaître le travail des gens.
C'est à la bibliothèque universitaire,
oui.
Campus Grimald.
C'est super, c'est un super lieu.
C'est un super lieu.
Ben, vraiment.
Mais du coup, on se pose la question à quand la photographie enseignée à l'université?
Moi, je dispense quelques cours, hein, ouais. C'est sur option. Voilà, ça reste sur option. Donc, depuis maintenant quelques années.
Mais il y a des projets ou pas du tout? On en parle ou c'est pas
pour l'instant, pas à ma connaissance. Peut-être que. Il en sera question dans quelques années, mais pour l'instant, pas à ma connaissance.
Non, mais parce que ce serait formidable avec tout le travail que vous effectuez.
Ouais.
Le fait de solliciter des gens qui n'ont jamais touché un appareil photo, qui d'un coup sont formés par des photographes de talent, des photographes célèbres, et se mettent à la photographie, enfin, on se dit...
Oui, mais alors moi, mes cours, si vous voulez, étant donné que ce sont quelques heures, hein, c'est 18 heures par semestre, donc c'est peu, et en même temps, ça donne la possibilité de faire passer des messages, et surtout de donner une culture visuelle. Dans mon cours, je fais pas de technique parce que c'est pas ce qui m'intéresse là dans ce cas précis. Ce qui m'intéresse, c'est de donner aux étudiants une culture visuelle et de savoir comment on construit un projet, comment les artistes photographes travaillent, que ce soit dans le photojournalisme ou dans la photographie plasticienne, dans
l'analyse de l'œuvre.
Oui, mais surtout connaître l'intention du photographe. Voilà, que les choses ne se font pas comme ça et que c'est bien d'avoir un projet photographique, c'est un projet esthétique, c'est un projet de vie qui est en progression permanente.
Les étudiants y vont voir cette expo qui est visible jusqu'au 30 octobre ?
Oui. Oui, j'ai fait une visite parce que j'ai cours le lundi après-midi, j'ai fait une visite hier avec eux, donc et puis ils y retournent régulièrement, quoi. Étant donné que c'est dans le hall d'entrée de la fac, les étudiants passent et bien sûr s'arrêtent, quoi. Ils sont interpellés par les visages et par les images.
Il y a aussi l'exposition Etrecita du côté d'Albor. Alors les gens qui sont allés notamment découvrir le programme de Bastia, c'est-à-dire à l'Albor et au théâtre, ont pu découvrir cette exposition. Celles et ceux qui sont allés entendre Laure Limonge et qui présentait son livre On ne tient pas la mer entre ses mains ont vu cette exposition et m'ont rapporté que c'était une très belle exposition.
Bon, écoutez, tant mieux.
Donc il faut y aller. Et pour le coup, elle est visible jusqu'à quand
Fin octobre.
Fin octobre.
26 octobre.
26 octobre également. Et puis, très prochainement, le 3 octobre jusqu'au 26, cette exposition au Centre culturel Una Holt de Francesco Zizzo, la In the Same Boat, que nous pourrons découvrir voilà, dans la salle du bas et à l'étage.
En noir et blanc.
En noir et blanc. Vous avez raison de le signaler. Nous attendons Marc-André à Castellane. A-t-il disparu ? Allez, on écoute Lampedusa de l'Albe, puisque c'est un sujet qui colle à Francesco Zizzo, là, et on se retrouve avec Marc-André.
Thank you. piano e stene lumi ui genano e stene le barre un anu vade che da gaschiano oh, chi se non si strappa d'umaia chi se ni la basta ni sogni mi giure
Centre méditerranéen de la photographie, son directeur donc, nous présente trois expositions, celle de Francesco Zizzola, In the Same Boat, du 3 au 26 octobre au Centre culturel Una Holt, portrait méditerranéen du côté de l'université de Corte, de Corse, bibliothèque universitaire au campus Grimaldi, et à l'Albor, au Etrecita, à découvrir jusqu'à la fin octobre le 26, me semble-t-il, peu ou prou, ça doit être ça.
Fin octobre.
Michael Andréani est toujours là-bas. Michael Andréani, vous ne la mettez pas en veille ce soir, je vous autorise à tout trouver. Parce que Laurent Hérin, Marcel Fortigny et moi-même, nous sommes des buses. Nous accueillons Marc-André à Castellane.
Bon Nazaire.
Bon Nazaire.
Triple buse.
Est-ce que tout va bien?
Tout va bien.
Bon
hier, j'ai rien trouvé alors que c'était que des évidences.
On va faire jouer Alicia Brunini aussi.
Alicia Brunini réalise cette émission ainsi que Stéphane Casalong. Ils peuvent jouer.
Bon, très bien. Est-ce qu'on y va?
Ah ben oui.
Alors voyons si la culture, on dira générale, sans doute très importante en matière de photographie, suit l'aspect musical également.
Ah, prenez-vous alors, ça, bon, tiens, prenez-vous ça.
Donc, bon, certaines,
c'est
évidemment...
Certes,
ça y va, je voulais donc ça se joue vraiment à la vitesse. D'autres se peut-être demandent un peu plus de réflexion.
Oh, je vais enlever mes lunettes, comme ça j'entends mieux.
On y va.
Hey Joe.
Ah oui, ça
c'est Laurent?
Oui.
Non, c'est Laurent. Oh là là.
One point. Hey Joe. Allez, très bien, très bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, ça c'est très intéressant.
Vous le saviez?
Oui, mais moi, je pourrais jamais faire des jeux.
Vous avez peur? Oh, ça c'est beau, ça. Ouais. Ça c'est Avileta, non? Non?
À l'altro mondo.
Ah bah oui, bah oui, bah oui.
Frères Vincenti.
Bah oui, c'est les frères Vincenti. Je l'ai dans la tête par Jean-Claude Acquavive et Antoine Tirosi.
Il a pas trouvé André Agnan.
Il a trouvé, mais il a décidé de ne plus jouer.
Si. Omi quand tu dis plus.
Bon, j'avais un peu trouvé quand même.
On est en mode diesel.
On devrait m'accorder le point si je peux.
Disons qu'il y a un demi point qui peut être accordé parce qu'effectivement Jean-Claude Acquavive a chanté en duo avec Antoine Tirosi. Donc ils l'ont chanté. Allez, on va vous accorder.
Et on la trouve sur l'album Sidi May.
Ouais.
Et pim.
Mais allez. Mezzoboom. En plus, c'est l'intro de cet album.
Voilà.
Un peu plus collector.
C'est super joyeux hein, ce soir. Ouais. Marcel Fortigny. Il a un buzzer imaginaire. C'est génial. C'est beau.
C'est un collector de Kant.
Ah, ça je voilà. Connais, moi.
Allez, Langocha.
Ouais.
Oui, oui.
L'encouragia miséricordia.
Oh mon Dieu. Mais parce que vous la jouez trop rapidement.
Non, mais pas avec des cuisières pour ouvrir ce d'impôt. Hein. Alors, un truc beaucoup plus classique, là, ça va vraiment se jouer à la vitesse.
Ah, mais attendez, on a un problème. Michael?
Oui.
Ça ne va pas ce soir?
Je la connaissais, mais sur une autre tonalité.
C'est
Henri,
ça,
plutôt.
Il nous tue. S'il change les tonalités, ben oui.
Tonalité, on ne peut pas passer que
le... coco.
Le Val d'Angage de Capot, non, la musique, c'est la musique. Après, la tonalité.
Rien, Capot zéro.
Non, on aimait mes barres, Guidi. Ouais,
bon, c'est pour votre voilà, cuisine interne. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'on va... Ah, ça, quand même.
Je me suis fait tout petit devant une poupée, bravo.
Ça, je t'ai laissé parce que...
C'est moi la poupée.
Je savais que ça allait jouer à la vitesse.
C'est-à-dire que tous les soirs, je la demande. Alors forcément, la soirée,
on a fini
par l'avoir. Ben,
alors
oui.
Peut-être un univers un
donc,
peu plus...
Donc, 1,5
hein
face à Laurent Hérin qui a 1. Et Michael
0. Hein.
Oh, ça me fait plaisir. Quant à Marcel, il est
existant
ex aequo avec Michael.
Un dernier petit point pour la gagne. Bon, c'est un peu plus Jay-Z.
Django?
Yes, what?
Ah, nuage?
Yeah!
Oh, wow. J'ai gagné ce soir!
Eh ben!
Ouais.
Bravo.
Oh, ça me fait plaisir, je ne gagnais plus depuis 2 semaines. Allez-y,
depuis le lancement de la grille des programmes.
Beau, ah, vous voudrez pas. Ça, c'est trop joli. Bonsoir, Marcel Fortini.
Bonsoir, Marie.
Est-ce que cette émission vous a plu?
Extraordinaire.
Oui, le pouvoir de la musique. Mais le pouvoir de la musique sur les dialogues. Et vous, Laurent Hérin, vous avez apprécié cette émission?
Très belle émission, Marie.
Et toi, Mika?
Bien sûr.
Allez, on vous rappelle qu'il y a 3 expositions à voir, et ce grâce au Centre Méditerranéen de la Photographie. L'une est au Centre Culturel L'Albor, où elle s'intitule Etrecita, exposition de Valérie Rouillet et Santa Azara. L'autre est à l'Université de Corse, à Corte, à la Bibliothèque Universitaire au Campus Grimaldi, Portrait Méditerranéen. Et la troisième, elle verra le jour le 3 octobre jusqu'au 26 octobre. Elle se termine tout à peu près en même temps. In the Same Boat de Francesco Zizzola.
Juste une petite remarque.
Mais je vous en prie.
L'humain est au centre de ces 3 expositions.
Ah ben oui, puisque l'une, ce sont des portraits. L'autre, c'est évidemment les migrants, on l'a dit, puisqu'il s'est embarqué sur un bateau de sauvetage envoyé par Médecins Sans Frontières. Et puis...
C'est pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard. Et puis, Etrecita, alors là, c'est formidable, ces portraits également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Marcel Fortini, merci. Merci Marc-Andrea Castellani.
Merci à vous.
Merci Michael Andréani.
Merci, merci.
Bon, et merci Laurent Hérin.
Merci Marie.
Bon, et bravo à Alicia Brunin et à Stéphane Casalonga qui réalisait cette émission. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Acquavive.
France Bleu RCFM.
Yes, and an 8.